Les amis, on reprend notre cours à la mémoire de Monsieur et de Madame K1. Et aujourd'hui, un cours un petit peu particulier. Je prie le maître du monde pour qu'il me donne les mots justes et adéquats, parce que c'est un cours pas facile. Tout d'abord, on vient de sortir de Pourim, et finalement, comme je l'ai souvent expliqué, le grand message de Pourim, c'est finalement un homme, Mordechai, qui refuse le culte de l'homme. Il refuse de sombrer dans le culte de l'homme. Tout le monde se prosterne devant Aman, pas parce que Aman se prend pour une idole, comme je l'ai déjà expliqué, pas du tout, mais bon, c'est un homme puissant. Et donc, il veut écraser tout le monde, et tout le monde se prosterne devant lui. Il y en a un qui a le courage de refuser, non seulement de risquer sa vie, mais de risquer même toute la vie du peuple juif. Mais finalement, c'est lui qui va gagner. C'est Mordechai. Mordechai est finalement le symbole de cet homme qui refuse ce qu'on appelle en hébreu « Pulchan Adam », le culte de l'homme. Parce que si finalement on devait résumer toute l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui, quelle est l'idéologie qui traverse toute l'histoire humaine? Le culte de l'homme, le culte du pouvoir, le culte de l'argent. Et aussi, il faut dire la vérité, comme on va le voir, parce que c'est un cours un petit peu délicat aujourd'hui, le culte des représentants de Dieu. Et dans notre peuple, autant, si pas plus que partout ailleurs. C'est-à-dire que finalement, comme je vais vous le prouver aujourd'hui, toute l'histoire humaine est traversée par une idéologie qui est que finalement les peuples sont soumis à ceux qui ont l'argent, à ceux qui ont le pouvoir, ou à ceux qui se présentent comme les représentants de Dieu. Et les gens suivent comme des moutons derrière ces puissances-là. Le Zohar révèle quelque chose d'extraordinaire, que Mordechai était le Gilgul de Adam Harishon. Et il est venu faire le tikkun, la réparation de la faute de Adam. Comme vous allez le voir, je vais vous décrypter aujourd'hui la faute de Adam comme, c'est très orgueilleux ce que je vais dire, comme personne ne l'a encore jamais fait. Il n'y a que moi qui ai eu ce secret-là. Mais ce n'est pas grave. Moi aussi, je fais partie du culte de l'homme. Applaudissez. Très bien. Et donc, nos maîtres disent, dans les secrets de la Torah, que Mordechai était le Gilgul de Adam, et la raison pour laquelle il a refusé de se prosterner devant Aman, en sachant qu'il mettait tout son peuple en danger, et lui le premier, c'est parce qu'il voulait, il savait, c'était un homme qui avait le roi Harkodesh, qui était animé, on pourrait dire, d'un esprit prophétique, il avait compris qu'il était le Gilgul, la réincarnation de Adam Harishon. Et il a voulu faire, et il a réussi d'une certaine manière, le tikkun de Adam Harishon, il a commencé, la véritable réparation se fera avec le Mashiach, qui lui aussi est une partie de Adam Harishon, comme on le sait. Tous les grands, grands, grands sont des réincarnations de Adam Harishon jusqu'au Mashiach, qui terminera le tikkun de la première faute qui a fait tomber toute l'humanité jusqu'à la délivrance finale. Mais Mordechai, lui aussi, était un élément du tikkun, et c'est la raison pour laquelle il a refusé de se prosterner devant Aman. Alors bien sûr, vous pouvez me poser la question, quel rapport entre la faute de Adam et le fait de ne pas se prosterner devant l'homme? Eh bien, je vais vous révéler, mes amis, quelque chose qui n'a encore jamais été dit, que finalement, quand on arrive à décrypter fondamentalement et profondément la faute de Adam, on se rend compte, évidemment, vous savez tous et toutes, je vous l'ai déjà expliqué des milliards de fois, que toute la Torah est codée, ce ne sont que des métaphores, et il ne faut strictement rien prendre à la lettre, parce que tous les véritables messages de la Torah sont cachés au plus profond des versets eux-mêmes, et seuls ceux qui ont les clés arrivent à mettre en évidence ce que nos maîtres appellent le Oraganous, la lumière qui est cachée, Oraganous, la lumière cachée, à l'intérieur de la Torah elle-même. Quelle était fondamentalement la faute de Adam? Nos maîtres nous disent que, dans le Zohar, que l'art de la connaissance du bien et du mal, ne me demandez pas pourquoi, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vous le dis, c'est marqué des dizaines de fois dans le Zohar, cet arbre-là représente la tribu qu'on appelle la tribu de la Malchut, de la royauté. Ça veut dire d'une certaine manière du pouvoir. D'après nos maîtres, je l'ai déjà enseigné des dizaines de fois, l'arbre n'était pas interdit pour toujours. L'arbre était interdit jusqu'à la fin de Shabbat. Adam devait d'abord traverser le Shabbat, et tout de suite après, il aurait fait le quatrième repas, ce que nous on appelle Melave Malka en hébreu, trois repas dans le Shabbat et un repas à la fin du Shabbat. Et le repas à la fin du Shabbat devait être précisément avec cet arbre-là, qui représente la Malchut, la royauté. Mais il fallait d'abord passer le Shabbat. On va bien sûr décrypter dans quelques instants. Adam s'est précipité, il n'a pas voulu attendre jusqu'à la fin du Shabbat, et il a mangé de cet arbre-là, lui et son épouse, le sixième jour, le jour où ils ont été créés. Encore une fois, ce sont des codes. On va décrypter ce que signifie le sixième jour et pourquoi ils ont voulu manger le sixième jour. Alors commençons par le Shabbat. Dit d'une manière très simple, c'est quoi le Shabbat? C'est le retour vers Dieu. Shabbat vient du mot lashuv, revenir. C'est la prise de conscience que finalement le Créateur et le dirigeant de ce monde, c'est Hachem. Et donc, la raison pour laquelle Hachem dit à Adam, ne mange pas de cet arbre-là avant que tu aies traversé le Shabbat, puisque cet arbre représente la royauté, je veux que tu ramènes la royauté à moi. C'est moi le créateur, c'est moi le véritable dirigeant de ce monde. Donc, d'abord, tu reviens vers moi, tu prends conscience que je suis le roi de ce monde, et après, quand tu manges de cet arbre-là, évidemment, ce n'est pas l'histoire de manger, c'est des symboles tout ça. C'est-à-dire que la royauté représentée par cet arbre-là, tu me la ramènes à moi. Comme il est dit au moment de la délivrance, « Bayom ha'oui Hachem les meler al kol ha'aretz » Dieu sera reconnu comme roi sur toute la terre. Donc, le décodage de ce qui devait être fait et ce qui n'a pas été fait, c'est qu'une fois que tu auras compris, grâce au Shabbat, que je suis le roi de ce monde, tu manges cet arbre-là, décryptage, tu me ramènes la royauté, tu prends conscience que le roi, c'est moi. Et Adam a fait une très 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 grave faute. Il a mangé de cet arbre-là le sixième jour. C'est-à-dire qu'il a amené la royauté au sixième jour, et pas à Dieu. Que représente le sixième jour? Le sixième jour, c'est la tribu de qui? De Yosef, Hatzadik. Premier jour Abraham, deuxième jour Yitzhak, troisième jour Yaakov, quatrième jour Moshe, cinquième jour Aaron, sixième jour, le jour où Adam est créé, d'après les décryptages, d'après les codes bien sûr, sixième jour il est créé, c'est la tribu du Yesod. Yesod, Tzadik, Yesod, Olam. Le juste est le fondement du monde. Et donc, d'une certaine manière, qu'est-ce que Adam a fait? Il a refusé de donner la royauté à Dieu et il l'a donnée à qui? Au juste, à Yosef. Yosef n'existait pas encore à cette époque-là, mais Yosef c'est le symbole du juste. C'est-à-dire que la faute terrible de Adam, c'est qu'avec lui a commencé le culte de l'homme. À un niveau très très haut. Parce que Yosef n'est bien sûr pas un milliardaire devant lequel on se prosterne, c'est pas un politicien ou un dirigeant devant lequel on se prosterne, c'est pas ni un curé ni un rabbin devant lesquels on se prosterne, Yosef c'est quand même un juste authentique, d'accord. Mais d'un autre côté, la faute au niveau de sa racine, c'est que l'histoire humaine a commencé avec le refus d'un homme de reconnaître la royauté d'Hachem et de préférer donner la royauté, même si c'était à un niveau très très haut, de donner la royauté à un homme. C'est lui le roi. C'est lui le roi. Bien qu'au niveau de la faute de Adam, c'est à un niveau très 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 haut, D'accord? Parce que, je vais donner des exemples simples. On a le droit de, je dirais, d'honorer, de respecter Rabbi Shimon Bar Yochai. On a le droit d'honorer, de respecter le Baal Shem Tov. On a le droit de respecter le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman, le Gaon de Vilna, aujourd'hui notre génération Rav Kanievski. Mais ça se joue à un cheveu. Ça se joue à un cheveu. Comme je dis toujours, excusez-moi, je vais le dire à la Dino, mais je le fais exprès pour que vous puissiez le comprendre. Tout le monde attend le Mashiach. Je vais vous dire franchement, moi j'en ai rien à foutre du Mashiach. Je vais vous donner un exemple. Oui, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Et après, vous allez m'applaudir. Je vais expliquer pourquoi. Si je dois faire des réparations chez moi à la maison, je l'ai déjà dit 1000 fois, d'accord ? J'appelle un artisan. Je lui dis, monsieur le marteau, vous venez chez moi ? Ou je dis, monsieur l'artisan, vous venez avec votre marteau ? Le marteau, c'est un ustensile dont l'artisan a besoin pour faire des réparations chez moi. Mais quand il va venir, je vais lui serrer la main, je ne vais pas dire « montrez-moi votre marteau pour que je l'embrasse ». Le Mashiach, c'est un ustensile entre les mains d'Hachem pour amener la délivrance finale. Ce n'est qu'un ustensile. Comme Moshe était un ustensile pour recevoir la Torah. Je sais que ça choque ce que je dis. C'est pour ça que je le dis. Moi, j'en ai rien à foutre du Mashiach. Je ne suis pas en train d'embrasser le marteau, la scie, le pinceau. Quand je rentre chez moi le soir et que je vois que l'artisan a fait chez moi des travaux magnifiques, c'est à lui que je dis merci. Je ne lui demande pas, montrez-moi votre marteau, montrez-moi votre scie, montrez-moi votre... Mais j'en ai rien à faire, moi, de ces ustensiles. C'est lui qui, avec ses ustensiles, a réparé ma maison, a fait le tikkun du monde. C'est Dieu qui répare le monde. Il a des ustensiles qui sont le Mashiach, Moshe, etc.
D'ailleurs, jamais il n'est indiqué Eloé Moshe.
Ouais, bien sûr. On ne dit pas, bien sûr. Plus encore, je l'ai déjà dit ça, et je le redis chaque Pessah. Le soir de Pessah, on lit la Haggadah. Je vous dis franchement, quand je dis j'ai envie de pleurer, parce que c'est tellement, elle est tellement vraie la Torah. Dites-moi, dans toute la Haggadah qu'on lit le soir de Pessah, on ne parle que de la sortie d'Égypte. Qui nous a sortis d'Égypte ? Moshe. On ne cite pas une fois son nom dans toute la Haggadah.
C'est pour montrer que c'est Hachem qui nous a sortis.
Pour bien nous faire comprendre que ce n'est qu'un marteau. Le vrai, vrai, vrai roi de ce monde, c'est Hachem. Il a des ustensiles extraordinaires. Comme moi, par exemple. Très bien. Mais... ce ne sont que des ustensiles. On ne vénère pas un ustensile. On ne se prosterne pas devant un ustensile.
Et on ne sait même pas où est enterré Moshe pour ne pas que justement... le...
Non seulement, je reprends ce que notre ami dit, on ne le cite pas une fois dans toute la Haggadah, et en plus, on ne sait même pas où il est enterré. Et vous savez pourquoi on ne sait pas où il est enterré ? Parce que nos maîtres disent, si on avait su où il est enterré, ça serait devenu le plus grand temple idolâtre de la planète. Mais évidemment, tout le monde aurait été là-bas, se prosterner devant la tombe de Moshe, évidemment. Donc Hachem ne voulait pas qu'on transforme Moshe en idole, il nous a caché là où il est enterré. Voilà. Parce que c'est ça le défaut de l'homme. Dès qu'on voit un homme bien, waouh. Non, maintenant vous comprenez pourquoi je l'ai dit à la Dino, j'en ai rien à foutre du Messie ? Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'un ustensile entre les mains du maître du monde. Moi, je ne vénère qu'un seul... Enfin, je ne veux pas dire être, parce que c'est... je n'ai pas d'autre mot. Moi, je ne vénère qu'une seule dimension, c'est Dieu. Un point, c'est tout. Maintenant, il a encore une fois des ustensiles fabuleux. Le Mashiach, c'est un ustensile fabuleux. Mais ça reste un ustensile. Ça reste un ustensile. Pourquoi vous croyez que Moshe... c'est pas de moi, c'est le mec qui il a refusé pendant une semaine, d'après notre tradition, pendant une semaine, il a refusé d'être le Goël, le libérateur. Parce qu'il connaissait la mentalité des Juifs. Il savait très bien que s'il les libère, il va devenir le petit dieu des Juifs. Et lui, qui était tellement humble, Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes, il a dit, mais non, mais attends, ça va pas, mais attends, mais je les connais les hommes, les Juifs, les hommes. Je les connais. Si je les sors d'Égypte, ils vont tellement, tellement me vénérer que... Hachem lui a répondu, t'inquiète pas, ils te vénéreront pas. D'accord, même ils vont vouloir te lapider. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos maîtres vont jusqu'à dire que Hachem a tourné le cœur des Juifs, que non seulement ils n'ont pas vénéré Moshe, mais d'une certaine manière, plusieurs fois, ils se sont même révoltés contre lui. Et ça vient d'Hachem pour ne pas qu'il sombre dans l'idole Moshe. Alors maintenant, vous comprenez que finalement, à partir du moment où Adam il a fait cette faute de donner la royauté à un homme, aussi grand soit-il, puisque c'est le sixième jour, c'est le tzaddik. Après, les choses ont commencé comme une avalanche. Une avalanche, ça commence avec quoi? Une petite boule. Mais après, quand elle tombe sur le village, c'est plus une boule. Eh bien, du culte du tzaddik, on en est passé au culte du riche, au culte du pouvoir et au culte de n'importe quoi. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Ça a commencé très haut, mais après, ça a descendu, jusqu'à ce qu'on arrive, c'est avec ça que j'ai commencé mon cours, le culte d'Aman, une grosse crapule, d'accord, qui veut se faire passer pour je ne sais quoi, et devant lequel tout le monde se prosterne. Et ça a commencé avec la faute de qui? La faute de Adam. Vous comprenez maintenant pourquoi le Zohar dit que Mordechai était le Gilgoul de Adam? Parce que Mordechai a compris que se prosterner devant Aman, c'est l'avalanche qui émet d'une boule de neige. Adam a commencé à vénérer une boule de neige, et on en arrive des siècles après à vénérer une grosse crapule, au point que tout le monde tremble devant lui et se prosterne devant lui. Mordechai dit, puisque moi je suis le Gilgoul de Adam, je vais faire le tikkun, je vais faire la réparation, je ne me prosterne pas devant Aman. Et finalement, il a tout transformé, Vena Forou, et il est arrivé à le vaincre. Eh bien, mes amis, commençons notre paracha aujourd'hui. Notre paracha, cette semaine, parle de la faute du veau d'or. Alors là aussi, comme la faute de Adam, 99,9% des hommes et des femmes sur Terre, y compris 99% des Juifs, n'ont rien compris, ni à la faute de Adam, ni à la faute du veau d'or. 99% des Juifs imaginent, alors que nos maîtres disent tout le contraire, que la faute du veau d'or, bon ben ils ont fait une idole, ils ont commencé à danser autour, à se prosterner, etc. Il faut vraiment être idiot pour pouvoir dire une chose pareille, comme l'explique entre autres Nachmanide, qui dit que ce n'était pas du tout un acte idolâtre. Parce que n'oublions pas que quelques jours avant, ils venaient quand même de recevoir les 10 commandements et d'entendre « tu ne feras pas d'idole ». Comment on peut imaginer qu'ils viennent d'entendre, bon, encore une fois, ce sont des métaphores, mais je reste dans la métaphore, de la bouche d'Hachem lui-même, ils entendent, je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et tu ne te feras pas d'idole, et quelques jours après, ils font un veau d'or, dans le sens une idole. Quel idiot qui va croire une chose pareille. Non. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Alors regardons ce que dit Rashi. Comment qu'ils ont fait le veau d'or? Ce sont des métaphores, bien sûr. Nous, on est dans le décryptage. Mais recommençons par les métaphores, par les codes. Ils ont trouvé la plaque de fer sur laquelle il était marqué « Allez, Chor », que le taureau monte, que Moshe avait jeté dans le Nil pour récupérer le cercueil de Yosef. Parce que les pharaons avaient caché le cercueil de Yosef, parce qu'ils pensaient que toute la bénédiction de l'Égypte venait de Yosef. Ils ne voulaient pas que les Juifs prennent avec eux Yosef, et ils l'ont caché dans le Nil. Qu'est-ce que Moshe a fait? Ce sont des métaphores, encore une fois. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le décryptage. Il a marqué sur une plaque de fer à l'échor que le taureau monte. Pourquoi? Puisque, comme on le sait, Yosef est comparé au taureau. Les quatre fameux animaux qui portent le trône divin, le lion, l'aigle, le taureau, et le quatrième, il a une face d'homme. D'accord? Nos maîtres disent, le lion fait allusion à Yehuda, le taureau fait allusion à Yosef, l'aigle fait allusion à Yaakov, pourquoi c'est pas le sujet, et l'homme fait allusion, la face d'homme fait allusion au Mashiach, qui est l'homme authentique. Maintenant, le taureau représente Yosef. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a marqué « Aléchor, que le taureau monte !» Il a jeté cette plaque de fer dans le Nil. Donc, en principe, si tu jettes une plaque de fer dans le Nil, il n'y a aucune chance qu'elle puisse remonter. Et la plaque de fer est remontée avec le cercueil de Yosef. Et comme par hasard, il trouve cette plaque de fer, il la jette dans l'endroit où ils avaient pris, vous savez, ils avaient pris tous les bijoux des femmes et les bracelets, etc. Ils avaient jeté ça dans une sorte de grande marmite, bon, peu importe. Ils jettent la plaque de fer dedans, ce sont des métaphores bien sûr, et tout d'un coup un taureau sort. D'accord ? Le taureau, c'est le symbole de qui ? Eh bien, de Yosef. Waouh ! Et dites-moi, qu'est-ce que dit la Torah ? Combien d'heures avant la venue de Moshe, ils ont fait le veau d'or ? Oh, la Torah ! Je ne sais pas d'où tu sors. Combien d'heures ? Mais non, mais c'est... Mais tout, je dis comme que je dis toujours, tout est dans la Torah, dans les mots même, dans les lettres de la Torah, tout y est. Mais malheureusement, on ne sait pas les décrypter. Combien d'heures avant la venue de Moshe, ils ont fait le veau d'or ? 6 heures. 6 heures. Sixième jour. Le chiffre 6 par rapport à Yosef. La sixième sphira. Sixième attribut. Yosef. Ça veut dire qu'ils ont fait la faute du veau d'or 6 heures avant la venue de Moshe, avec la plaque qui symbolise Yosef. Le taureau n'est pas du tout une idole. Il symbolise tout simplement qui ? Le tzaddik. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Nos maîtres disent, pas seulement dans le Zohar, y compris dans le Talmud, que la faute du veau d'or est la répétition au niveau du peuple juif de la faute de Adam. Si je n'avais pas dit tout ce que vous avez dit, comment vous comprenez ? Quel rapport entre la faute du veau d'or et la faute de Adam ? Là c'est un taureau, là c'est un arbre, mais j'ai tout expliqué. La faute de Adam, c'était le culte de l'homme. La faute du veau d'or, c'est à nouveau le culte de l'homme. La sixième heure. Yosef, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Ils ont voulu dire à Hachem, écoute, toi te nommer comme roi, c'est très compliqué, parce qu'on ne te voit pas, on ne sait pas où tu es, on ne sait pas qui tu es. On a besoin d'un roi plus visible, plus proche de nous. Alors, tu es d'accord qu'on prenne un grand, grand sadique comme notre roi ? Et ils ont refait la faute de Adam.
C'était avant la construction du
Mishkan. Avant la construction du Mishkan.
Parce que c'est là la présence d'Hachem.
Bien sûr, évidemment. C'est pour ça que tout cet après, Hachem leur demande de faire le Mishkan, comme explique Rashi, pour commencer à réparer la faute. Oui ?
Est-ce que
Adam était conscient ? Il était conscient quand il a fait des trucs le sixième jour ? Il était conscient de tout ce que... Enfin, par rapport à Yosef, par rapport aussi...
Oui, il était conscient. Attention, Adam, c'est pas vous et moi, évidemment. Ça se joue à une subtilité qui dépasse notre compréhension. Mais malgré tout, oui. C'est-à-dire que, je le dirais d'une manière très simple, c'est le problème de tous les hommes sur Terre. On a besoin de représentation. On n'arrive pas à rester dans l'abstrait. On n'arrive pas à s'attacher à un Dieu qu'on ne voit pas. C'est difficile. Alors, on a besoin d'intermédiaires. C'est ça l'idolâtrie en vérité. On a besoin d'intermédiaires qui nous rassurent parce que c'est proche de nous. Comprenez ? Voilà. Comme je dis, juste un instant, juste pour terminer. Comme je dis toujours, on attend le Mashiach. Excusez-moi, je vais le dire à la Dino. Mais c'est la phrase la plus idolâtre jamais dite sur Terre et en plus par les Juifs. Mais on n'en a rien à foutre du Mashiach, on n'attend pas le Mashiach, on attend Hachem. On attend Hachem, pas le Mashiach. On attend Hachem. Maintenant, encore une fois, il a besoin d'un ustensile qui est le Mashiach. Mais je ne vais pas m'amuser à embrasser le marteau. Si déjà je dois dire merci à l'artisan et l'embrasser, c'est l'artisan que j'embrasse, ce n'est pas le marteau. Et aujourd'hui, vous voyez, dans notre peuple... Iné, Mashiach. Je veux dire, comme je dis toujours, mais ça, il ne faut pas l'enregistrer. Le peuple le plus idolâtre sur Terre, c'est les Juifs. Non, j'ai rien dit. Il faut continuer à venir à mes cours quand même. Hein. Très bien. Ben oui.
Aaron a laissé faire, donc.
Bien sûr. Aaron a laissé faire. Et vous savez pourquoi Aaron a laissé faire? Parce que lui-même est le grand prêtre, il est le grand Kohen Gadol, il est le représentant de Dieu, et d'une certaine manière, lui-même est tombé dans ce piège. Eh oui, il est tombé dans ce piège. Aaron, c'est le Kohen Gadol. Et donc, il est tombé dans ce piège, finalement, de donner trop d'importance à l'intermédiaire plus qu'à sa source qui est Dieu lui-même. Et je vais vous le prouver dans quelques instants que Moshe a tout compris. Ça veut dire que la faute du veau d'or est la répétition au niveau du décryptage de la faute de Adam, le culte de l'homme. Bien que là, il s'agit d'un homme d'un très haut niveau, c'est un grand juste, c'est Yosef. Et maintenant, je vais vous relever quelque chose, mes amis. Mais là, c'est fou. C'est fou. Je suis très fier de mon cours aujourd'hui, pour Hachem. Ouais. Dites-moi, pourquoi le tzaddik qui s'appelle Yesod, c'est quoi l'Yesod en français? Les fondations. Les fondations, c'est vrai que c'est elles qui tiennent la maison. Mais on les voit, les fondations? Elles sont en évidence, les fondations? Je vous promets, je ne plaisante pas. Quand je dis ça, j'ai envie de pleurer. Je dis, c'est pas possible, mais quelle vérité dans notre Torah quand on la comprend? Pourquoi le tzaddik s'appelle Yesod? C'est vrai que le tzaddik, c'est lui qui soutient le monde. Dans le sens que tu ne peux pas peindre sans pinceau, tu ne peux pas enfoncer un clou sans marteau. Tu ne peux pas travailler sans ustensiles, donc les ustensiles sont fondamentaux. Mais après, tu les ranges dans la boîte à outils et on ne les voit plus. Pourquoi le tzaddik s'appelle Yesod? C'est-à-dire, il est en dessous. Pour nous montrer que le juste authentique, le vrai, le grand juste, c'est celui qui ne se montre pas, qui fait tout son travail, mais sans que personne ne le sache, sans que personne ne le voit. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que dans chaque génération, il y a 36 tzadikim nistarim, 36 justes cachés. Les vrais justes sont les justes cachés. Ça veut dire on peut le croiser et puis même pas se douter que c'est un juste. Parce que tout son travail, il le fait en cachette. C'est eux qui sont appelés vrais justes. Pourquoi? Parce que justement, comme ils sont cachés, ils sont comme les fondations. Ils font un travail inimaginable, mais pour pas qu'on les transforme en idoles, ils se cachent et on les voit pas. Et nos maîtres nous disent que dans chaque génération, il y a 36 justes cachés. Nos maîtres rajoutent, dont les deux tiers sont en Israël et un tiers en Chutz Laaretz, pendant tout le temps de l'exil. Mais même pendant l'exil où 99% des juifs étaient en dehors de la terre d'Israël, il y a toujours eu des juifs malgré tout en Israël, les deux tiers étaient en Israël et un tiers en Chutz Laaretz. Mais personne ne savait que c'était des tzadikim, personne. Pour donner des petits exemples, le Baal Shem Tov est resté voilé pratiquement jusqu'à les deux tiers de sa vie. Et vous savez quelle était sa profession? Il enseignait dans une école à des enfants. Il était professeur à des enfants de 5-6 ans. Alors que c'était déjà injuste jusqu'à ce que, bon, d'après notre tradition, je ne rentre pas dans les détails, Eliyahu Hanavi s'est dévoilé à lui. Il dit, maintenant tu es obligé de te dévoiler. Et au départ, il n'a pas voulu, comme Moshe a dit, non, je ne me dévoile pas. Mon travail doit être un travail caché. Eliyahu Hanavi a insisté, finalement il s'est dévoilé. Mais il s'est dévoilé le dernier tiers de sa vie. Pendant pratiquement toute sa vie, c'était un homme complètement caché, complètement voilé. Parce que ça, c'est un juste authentique. C'est pour ça qu'on appelle le juste Yesod, pour nous dire qu'un juste authentique, c'est pas celui qui se met en évidence. C'est celui qui fait son travail sans que personne ne le sache. Oui.
Yesod, c'est en hébreu le Yased, ça veut dire fonder quelque chose de rien, en fait.
À partir de rien.
Et arriver. Les meilleurs d'Israël, ceux qui ont créé Israël.
Absolument. C'est toujours très juste que ce que dit notre ami. Le Yased, ça veut dire créer à partir de rien. Ça veut dire que le tzaddik authentique crée des choses absolument incroyables. Mais je vais vous donner un exemple simple, mes amis. D'accord? Qui était la maman de Herzl? Non, je le dis à la dino, là, ça, c'est, je plaisante, d'accord? Qui était la maman de Herzl? Et pratiquement 99% des juifs ne le savent pas jusqu'à aujourd'hui. Ça me rend fou. Qui était la maman de Herzl? Le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna. Ben oui, c'était la maman de Herzl. Absolument, absolument. Qui sont les deux grands premiers maîtres d'Israël qui ont commencé à envoyer tous leurs élèves en Israël?
Les deux.
Les deux. C'était le seul point où ils étaient d'accord. Alors qu'ils étaient constamment en dispute. Au même moment, sans le savoir, ils disent à leurs élèves, vous montez en Israël. Il y en a eu un très célèbre qui a écrit un livre très connu, Le Col à Tor, La Voix de l'Oiseau, qui s'appelait le Rav de Sokolov, qui était un des plus grands élèves du Gaon de Vilna. Il lui a demandé, Rabbi, pourquoi tu nous envoies en Israël? Il dit, parce que les temps de la délivrance ont commencé. Très bien. Écoutez. Et il lui dit, Rabbi, est-ce qu'on y va pour faire quoi? On pourra, si on a les moyens de le faire, est-ce que, c'est dans son livre, Col à Tor. Il écrit ce qu'il a entendu de son maître, le Gaon de Vilna. Est-ce qu'on aura le droit, si on a les moyens, de rester assis et étudier toute la journée? Le Gaon se met avec force, il leur dit, pas question! Je vous envoie là-bas pour construire des maisons, pour planter des arbres. Je vous envoie là-bas pour reconstruire la terre d'Israël. Vous savez qui sont les deux premiers qui sont sortis des murailles de la vieille ville pour construire les deux premières maisons dans le quartier qu'on appelle aujourd'hui Yamin Moshe. Yamin Moshe. Eh bien, deux élèves du Gaon de Vilna. Qui a commencé à construire le Jérusalem moderne? Deux élèves du Gaon de Vilna. Avant de sortir, ils ont demandé au Gaon, mais si on sort, on va se faire déchiqueter par les animaux sauvages, par les bédouins, par ci, par ça, sans protection, sans rien. Le Gaon de Vilna leur a dit, vous sortez, si les Turcs vous laissent, mais les Ottomans à l'époque les ont laissés sortir, en se disant, de toute façon, dans une semaine, ils seront massacrés, on n'en a rien à faire. Ils sont sortis, ils ont construit deux maisons. Minashamaïm, ils ont été protégés, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a le Jérusalem d'aujourd'hui. Et pourquoi j'ai dit que le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov sont la maman de Herzl? Parce que finalement, ceux, les premiers rabbanim qui ont commencé à comprendre qu'on rentrait dans les temps de la délivrance, ce qu'on appelle Igvata de Mshicha, les talons du Messie, et qu'il était temps maintenant de revenir en Israël, et bien c'est le Gaon et le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a envoyé tous ses élèves dans le nord et une partie à Hevron. Et le Gaon de Vilna a envoyé ses élèves surtout à Jérusalem. Et c'est comme ça que finalement, ça a commencé. Après, bon, c'est venu sous la forme de Herzl. Ça, on pourrait l'expliquer pourquoi, et pourquoi pas un rabbi et pourquoi Herzl. Il y a des explications à ça. Mais finalement, qui a donné l'impulsion du retour? Mais ça, il faut que vous le sachiez, mes amis. Regardez, vous verrez que tout est marqué. C'est le Gaon de Vilna et maintenant plus que ça. Le Gaon de Vilna et Herzl et le Baal Shem Tov eux-mêmes ont quitté l'un la Lituanie et l'autre l'Ukraine, sont arrivés à Istanbul, mais quand ils sont arrivés à Istanbul, c'était en pleine guerre entre les Turcs, les Russes, je sais plus quoi, la Méditerranée était infestée de guerre, et ils ont dû rebrousser chemin, ils sont repartis. Et on a jusqu'à aujourd'hui, d'accord, un livre du Gaon de Vilna où il écrit à sa femme et à ses enfants que s'il arrive en Israël et qu'il arrive à s'installer là-bas, il les fera venir après. Ça pourra prendre des mois, des années, il ne sait pas. Mais en tous les cas, et ce livre-là est toujours jusqu'à aujourd'hui. Les deux sont partis rejoindre leurs élèves. Donc ça veut dire que finalement, cette impulsion a commencé avec deux maîtres d'Israël. Donc pourquoi j'ai donné cet exemple-là? Parce que jusqu'à aujourd'hui, 90% du peuple juif ne le sait même pas. Ça veut dire que c'était une action, on pourrait dire, de tzadikim qui était complètement cachée. Qu'aujourd'hui, vous demandez qui sont les premiers qui ont parlé du retour sur la terre d'Israël, 99% des juifs, je pense même chez les religieux, vont vous dire, bon, ben, c'était, les religieux vont dire c'était Herzl, et les laïcs vont dire c'était Herzl. D'accord? Mais qui va dire le Gaon de Vilna? Qui va dire Baal Shem Tov? Personne ne le sait. Et pourtant, c'est de l'histoire authentique. Maintenant, continuons, mes amis. Donc, si tu es un tzaddik, tu dois être comme les fondations. Essaye d'agir le plus possible en secret pour ne pas qu'on te transforme en idole. Parce que malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les politiciens, les riches, les représentants de Dieu sont considérés comme le rabbi a dit, le rav a dit, etc. Le marteau enfonce le clou. Non, c'est pas le marteau qui enfonce le clou. C'est l'artisan qui tient le marteau qui enfonce le clou. Donc, c'est pas le rabbi qui a dit non. Le rabbi n'est que le représentant de la parole d'Hachem, si c'est un rabbi authentique, bien sûr. Mais on ne dit pas le rabbi a dit, dit Hachem a dit. La preuve, vous avez déjà lu le Nar, la Bible en français. Est-ce qu'à l'époque on disait le prophète a dit? On disait Ko Amar Hachem, Dieu a dit. Ah tiens, c'était Dieu directement qui parlait? Non, il parlait à l'intermédiaire du prophète. Mais vous ne verrez jamais dans la Bible qu'il est dit, le prophète a dit. Sauf chez les faux prophètes. Là, on dit le prophète a dit. Mais chez les vrais prophètes, on dit Dieu a dit. Mais attends, c'est le prophète qui parle. Là, le prophète, c'est un micro. On ne va pas aller embrasser le micro. On embrasse celui qui parle. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas le prophète. Bien sûr, Vaïdaber Hachem et Moshe n'est mort. Mais même après Moshe, même dans la Bible elle-même, Ko Amar Hachem, alors que c'est Esaïe qui parle. Pourquoi on dit Ko Amar Hachem? Ko Amar Esaïe? Non, mais on n'en a rien à faire d'Esaïe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que dit Hachem. Et Esaïe, c'est son micro. C'est pas facile de revenir à la véritable source, qui est Dieu. Parce qu'on a tellement besoin de sentir les choses qu'on se fait des idoles. Et regardez maintenant ce qui va se passer. Là, vous allez tomber par terre. Quand Moshe revient, il voit le veau d'or. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Il casse les premières tables. Et malheureusement, on va en recevoir après les deuxièmes qui n'ont rien à voir avec les premières, comme je vais vous l'expliquer. Rien à voir. Comme je dis toujours dans mon langage à la dino, les premières tables, c'était la Torah. Les deuxièmes, c'est la religion juive. Ça n'a rien à voir. Et je vais vous le prouver. Les premières tables ont disparu et ne reviendront qu'avec la délivrance finale. C'est la fameuse Torah qu'on appelle Torah Mitzion, la Torah de Tzion. Jusqu'à présent, on a dans nos mains la Torah du Sinaï, qui sont les deuxièmes tables. Mais le Mashiach va nous redévoiler les premières tables, qui sont la Torah de Tzion. Je vais expliquer dans quelques instants. Moshe arrive, il casse les tables. Il arrive près du veau d'or, d'accord ? Il demande à ce qu'on transforme le veau d'or en poussière métallique. Après, il demande qu'on apporte plein d'eau, des barils d'eau. Il prend la poussière du veau d'or, il la mélange dans l'eau, il fait passer tous les juifs devant les barils d'eau mélangés de poussière et il les fait boire. Parce que lui, il ne sait pas qui c'est qui s'est prosterné, qui c'est qui ne s'est pas prosterné. Tous ceux qui ont accepté le veau d'or meurt sur le moment en buvant de ce liquide-là. Et ceux qui étaient contre, qui ne se sont pas battus contre, mais au moins qui n'étaient pas pour, on va dire, parce que personne ne s'est battu, même les Lévites ne se sont pas battus pour empêcher, ça aussi c'est une histoire folle. Mais bon, personne n'a vraiment réagi. Peut-être qu'ils ont, comme l'a dit notre ami, peut-être qu'ils ont été séduits par Aaron, voyant Aaron et accepté, donc peut-être qu'ils ont dit, si Aaron accepte, qui on est nous pour refuser. Mais en tout cas, il y avait ceux qui étaient pour, et ceux qui n'étaient pas pour, mais en tout cas, n'ont pas agi. Ceux-là, ils ont bu, ils ne sont pas morts. Dites-moi, mes amis, ça vous rappelle quoi comme histoire dans la Torah, cette histoire de boire un liquide avec de la poussière dedans? Eh bien, la sota. Waouh! La sota, c'est quoi la sota? Sota, traduction, la femme qu'on soupçonne d'être adultère. À l'époque du premier temple, dans le deuxième temple, ça n'existait déjà plus. Même dans le premier temple, ça n'a pas toujours existé, parce que c'était un miracle, on pourrait dire. Si un homme avait des soupçons sur sa femme, il l'amenait au temple. Bon, il faut que malgré tout qu'il ait des témoins qui ont vu qu'elle s'est isolée, etc. C'est pas simple des soupçons. Mais s'il a des témoins qui ont vu rentrer sa femme dans un endroit avec un autre homme, les témoins n'ont pas vu ce qu'ils ont fait à l'intérieur de la pièce, mais en tout cas, ils ont vu qu'elle s'est isolée dans une pièce. À ce moment-là, ils viennent témoigner au mari. Le mari avait le droit de prendre la femme et de l'amener au temple. Et qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On prenait de l'eau, enfin c'est de l'eau de source, c'est pas de l'eau du robinet. On prenait de la terre du temple, on mettait dans, on mélangeait, on la faisait boire. Si elle avait trompé son mari, c'était un S, hein, c'est pas à prendre à la lettre, c'est pour ça que ça n'a pas duré très longtemps cette histoire-là. Au deuxième temple, il y avait déjà plus parce qu'on n'était plus au niveau. Premier temple, c'était pas non plus tout le temps, c'était peut-être la moitié du premier temple. À ce moment-là, la femme commençait à gonfler jusqu'à ce qu'elle explosait, d'accord? Et si elle n'avait pas trompé son mari, l'eau se transformait en breuvage, on pourrait dire positif. qui faisait qu'elle devenait encore plus belle qu'elle ne l'était avant, et elle devenait encore plus forte, plus vigoureuse. Et par exemple, si jusqu'à présent elle n'avait mis que... Oh là là, ils vont me tomber dessus les femmes. Si elle avait mis que des filles au monde, eh ben elle pourrait mettre des garçons au monde. Parce que des filles, bon d'accord, mais... Voilà, bon, c'est nos rabbins qui disent ça, hein, c'est pas moi. Bon, bref, Bekitsour. Et donc, elle devenait plus belle qu'avant. Elle commençait à enfanter des garçons, etc. Si elle avait eu que des filles, par exemple. Donc, ou les eaux la tuaient, ou les eaux la rendaient encore mieux que ce qu'elle était jusqu'alors.
Et ben. Et le mari qui a abusé faussement sa femme.
Comment? Alors, d'abord, sachez que si le mari lui-même, même s'il a regardé une femme un jour dans sa vie, les os ne marchaient pas. À plus forte raison, si lui-même il a fait des bêtises, les os ne marchaient pas. Mais nos maîtres nous disent, même si il a été attiré par une femme et il l'a regardée, etc., avec des pensées, rien que des pensées, les os ne marchaient pas sur sa femme. Ça veut dire qu'il fallait que le mari soit 100% pur pour que les os puissent marcher sur sa femme. Comme pour nous faire comprendre que arrête d'accuser ta femme, regarde comment toi d'abord tu es, d'accord. Donc ça aussi, c'est la vérité vraie. Ça veut dire quoi? On tue la femme, et toi comment tu te comportes toi? Donc même s'il avait eu une seule pensée sur une femme, les os ne marchaient pas sur sa propre femme, même si elle avait trompé son mari. Les os ne marchaient pas. Même si elle avait trompé son mari, les os ne marchaient pas sur la femme, d'après les enseignements de nos maîtres, si lui-même avait eu une pensée sur une femme alors qu'il était marié. Voilà, donc... On voit que les choses sont quand même très équilibrées. Mais quoi qu'il en soit, Moshe fait la même chose. Alors je vous pose la question. C'est qui la femme, c'est qui le mari? Ben, c'est facile à comprendre. On sait que dans toute la Torah, il suffit de voir, ne serait-ce que dans Shir HaShirim, qui est le mari et qui est la femme dans le Cantique des Cantiques. Israël est l'épouse et Hachem est le mari. Sauf que lui, le mari, d'accord, c'est le seul qui a le droit d'être polygame. Il a 71 femmes. Les 70 peuples. Et Israël. Bien sûr, au moment de la délivrance finale, il est marié avec 71 femmes. Lui, il a le droit d'être polygame. D'accord. 71 femmes. Chaque peuple sera une épouse au maître du monde. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Les hommes sont considérés comme l'épouse et lui est considéré comme le mari. Et pourquoi il a fait boire ces eaux-là? Quel est le message qu'on comprend? Ne restons pas coincés dans le code. C'est quoi le message? Le message, c'est « Ah, vous avez voulu vous détourner de votre mari pour aller avec quelqu'un d'autre? » Ah, le message est trop fort. Ça veut dire que quand je donne plus de crédit à un homme qu'à Dieu, même si cet homme-là est un tzaddik, eh bien, je commets un acte d'adultère. D'accord. Ça veut dire que peut-être qu'arrivera un jour où les Juifs arrêteront de dire « Le Rabbi a dit, le Rav a dit ». Peut-être arrivera un jour où l'humanité tout entière diront « Dieu a dit ». Par quel intermédiaire? Bon, il avait un micro, c'est le Rabbi un tel. Très bien, ok, je ne vais pas me mettre à vénérer le micro quand même. Dieu a dit. C'est dur, hein? C'est dur, parce qu'on n'est pas, aucun homme n'est comme ce que je dis. Bon, il y en a deux ou trois peut-être dans chaque génération, mais aucun homme n'est comme ce que je dis. On est tous finalement tombés dans le culte de l'homme. Et je ne parle pas des hommes pourris, je parle même des hommes extraordinaires. Le rabbi a dit. Et le rabbi n'a rien dit du tout. C'est Hachem qui a transmis au rabbi de dire ce qu'il a dit. C'est un micro. Un micro extraordinaire. Attention, ne comprenez pas mal ce que je dis. Un micro extraordinaire. Moi, je ne pourrais pas être le micro d'Hachem. D'accord? C'est impossible. J'espère pouvoir être l'âne du Mashiach. Ça, ça ne me dérange pas. Mais au plus, un âne. Mais le micro, il n'y a aucune chance qu'on puisse l'être. Donc, c'est sûr que si Hachem choisit un rabbi pour être son micro ou un prophète, c'est sûr que c'est un homme extraordinaire. Mais ça reste un intermédiaire pour transmettre la parole d'Hachem. Et aujourd'hui, que ce soit 90% des Juifs et 90% de l'humanité tout entière, toute l'humanité depuis la faute de Adam est tombée dans le culte de l'homme. Et c'est ça ce que Moshe veut faire comprendre à Israël, en les considérant comme une sota. Vous avez abandonné Dieu pour finalement donner plus d'importance à quelqu'un de chair et de sang qu'à Dieu lui-même. Puisque toute la faute du veau d'or, encore une fois, le veau d'or représente le tzaddik, représente Yosef. C'est ça.
Mais cet intermédiaire est nécessaire. Parce que la seule fois où les Juifs se sont trouvés face à Hachem, enfin je veux dire, c'était le Roïm et Takolot, et il y avait du feu de partout, enfin c'était inimaginable.
Oui, encore une fois, le tzaddik est indispensable, comme les fondations sont indispensables pour que la maison tienne. Mais elles sont cachées. On vit dans la maison, on ne vit pas dans les fondations. Ça veut dire on vit avec Hachem. Attention, ne comprenez pas mal ce que je dis. On doit avoir un respect infini pour le juste, mais savoir faire la différence entre l'homme et Dieu. Tout vient d'Hachem. L'homme, s'il est méritant, mérite d'être l'ustensile d'Hachem, l'outil d'Hachem, ce qui est extraordinaire, vous imaginez.
Vaïdaber Hachem El Moshe, première partie, les morts, deuxième partie, c'est l'intermédiaire.
Nahon, c'est l'intermédiaire. C'est pour ça que c'est marqué toujours, comme dit notre ami, Vaïdaber Hachem El Moshe, les morts. Hachem parle à Moshe, Moshe transmet. D'accord ? Mais c'est pas Moshe qui parle. C'est Hachem qui transmet par l'intermédiaire de Moshe, puisqu'il faut bien que ça passe par un homme, puisqu'on s'adresse à des hommes. Et même à cette époque-là, Israël n'avait pas le niveau de recevoir directement de la bouche d'Hachem, enfin la bouche spirituelle d'Hachem. Il fallait que ça passe par une bouche de chair et de sang. Mais ce n'est qu'un intermédiaire. Ce n'est qu'un intermédiaire. Alors mes amis, qu'est-ce qu'on comprend de là ? On comprend de là quelque chose d'absolument incroyable. La première faute qu'a fait Israël dans le désert, c'est la faute du veau d'or. Comme je l'ai décrypté et expliqué aujourd'hui, la faute du veau d'or n'a rien à voir avec l'idolâtrie telle que malheureusement beaucoup l'enseignent. C'est en vérité quelque chose de beaucoup, beaucoup plus subtil, c'est-à-dire le sentiment qu'ont tous les hommes sur terre d'avoir le besoin d'être en face de quelque chose de perceptible, au point que finalement on remplace Dieu par le juste. Et après, on remplace le juste par le riche par le pouvoir, le riche par le dictateur, et on sombre finalement dans le culte des animaux, quoi. Des politiciens, les riches, machin, etc. Mais tout commence avec d'abord le culte du tzaddik. Et vous savez que, pour conclure, vous savez que, bon, dans pas si longtemps que ça, malgré tout, on va rentrer dans les trois semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Le 17 Tammuz, c'était quelle faute ? Celle dont on vient de parler, la faute du veau d'or. Le 9 Av, c'est la faute des explorateurs. Comment se fait-il que les trois semaines, qui sont les trois semaines de deuil, etc., correspondent le premier jour à la faute du veau d'or ? Et le dernier jour à la faute des explorateurs. Ça veut dire quoi ? Eh bien, mes amis, essayons de recomprendre, je l'ai déjà dit, mais on ne se lassera pas de le répéter. C'était quoi la faute des explorateurs ? D'abord, qui a choisi les explorateurs ? C'est Moshe. Donc, c'est clair qu'il a pris des gens qui étaient bien, très bien. Ok. Il n'a pas pris des crapules, c'est évident. Au départ, ils étaient bien. Au départ, ils étaient vraiment bien. Mais qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous apprend ? Parce qu'il n'y a que lui qui révèle les vrais, vrais secrets de la Torah. Ça veut dire l'essence de la Torah. Il nous apprend, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, que quand ils sont arrivés en Eretz Israël, c'était tous des chefs de tribu. Ils ont compris que si Israël rentre en Eretz Israël, il ne serait plus chef de tribu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a le courage de nous révéler que la vraie raison... Ah, la vitrine était très belle. Ils sont très forts, ils sont très puissants, des villes fortifiées. Oh là là, on n'y arrivera pas. Restons dans le désert parce que j'ai tellement besoin que vous vous prosterniez devant mon nombril. Non, ça ils n'ont pas dit, mais ils l'ont pensé. Très bien. Donc ils ont créé une belle vitrine. On veut, c'est ça, c'est marrant, on veut sauver notre peuple. On a vu de nos propres yeux qu'ils sont plus forts que nous. Nous, on vous aime. On veut vous sauver. D'accord. Écoutez-moi. Préparons-nous. Peut-être qu'on rentrera dans quelques années, pas maintenant. Mais en vérité, Rabbi Shimon bar Yochai révèle quelque chose d'incroyable. C'est parce qu'ils ont compris que s'ils rentrent, ils ne seront plus les leaders d'Israël. Et ils ont sombré dans le culte de l'ego. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit que finalement, le premier jour des trois semaines et le dernier jour des trois semaines, le point commun, c'est quoi? Le culte de l'ego. Puisque la faute du veau d'or, c'est remplacer Dieu par le tzaddik, le rabbi a dit. Et la faute des explorateurs, ce sont des tzaddikim qui au départ, et tzaddikim, Rachid, au départ c'est des tzaddikim. Au départ, ils ne s'imaginaient pas qu'ils allaient perdre leur pouvoir. Mais quand ils ont compris qu'ils allaient perdre leur pouvoir sur Israël, ils ont inventé toute une salade de vouloir protéger le peuple juif. Et en vérité, c'était uniquement pour pouvoir rester les leaders d'Israël. Ça n'a pas marché parce que dès qu'ils sont revenus, ils sont tous morts. Donc ça n'a pas marché. Mais quoi qu'il en soit, si Dieu les a punis. Mais ça, ils ne le savaient pas. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là une chose absolument incroyable. Et je n'ai pas fini encore. Je vais terminer par un dernier exemple, que finalement, toute la destruction du temple, qui est la maison d'Hachem, qui permet à Hachem de se dévoiler dans ce monde, eh bien c'est parce que on a toujours, dans tous les peuples, dans toute l'histoire humaine, y compris chez nous, on veut toujours remplacer Dieu par l'homme. Voilà. Ça, c'est le grand péché des hommes. On veut remplacer Dieu par l'homme. Et vous voulez qu'on termine par un exemple extraordinaire? Quel était le premier roi le plus crapuleux de notre histoire? Une grosse sale ordure qui a fait rentrer plein de veaux d'or dans les 10 tribus d'Israël. Jéroboam. Jéroboam. Yéravam en hébreu. D'accord? Au départ, c'était un très 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 grand sadique. C'est le seul qui a eu le courage, au point de risquer sa vie, de s'opposer au roi Salomon, qui prélevait des impôts inimaginables sur le peuple juif pour construire 1000 palais à ses 1000 femmes. Dans chaque palais, c'était rempli d'idoles. Mais ça, la majorité des juifs ne le savaient pas. Un jour, Jéroboam a voulu aller voir. Attends, tu nous prends tellement d'impôts, d'accord, tu as 1000 femmes, très bien. Mais... ok, mais j'aimerais bien voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Il a commencé à rentrer en secret dans les palais des 1000 femmes et il a vu que c'était rempli d'idoles. Il est parti, il l'a dit à tout Israël. Et un jour, il était devant le roi Salomon, d'accord, et il lui a dit, dis-moi, jusqu'à quand tu vas continuer à nous rouler comme ça? Le roi Salomon a mis sa tête à mort, il s'est réfugié en Égypte, jusqu'à la mort du roi Salomon. Après, il est revenu. Nos maîtres nous disent que c'était un homme tellement grand sur le plan de sa au point qu'il a eu le courage vraiment de risquer sa vie pour sauver le peuple juif, dénoncer ce qui se passait dans les châteaux des femmes de Salomon. Quand il est revenu, Hachem a dit au prophète, d'accord, que ça sera lui le roi des 10 tribus. Pour l'instant, c'était encore qu'un homme, un individu très grand, etc. Le problème, c'est qu'une fois qu'il est devenu roi, quand il est rentré en politique, eh ben, il n'était plus politique. Ou plutôt, il avait des tics d'être poli, mais il n'était plus politique. Il est devenu un homme puissant. Et nos maîtres nous disent que un jour, il a eu une réflexion. On approchait de la fête de Pessah. Écoutez-moi bien. Et il s'est dit, attends, mais toutes les tribus vont aller au temple. Et le seul qui a le droit de s'asseoir au temple, c'est un roi de la tribu de Yehuda. Lui, bien qu'il était le roi des 10 tribus, alors que l'autre n'était que le roi de 2 tribus, n'a pas le droit de s'asseoir dans la cour du temple. Seulement un roi de Yehuda. C'est notre loi. Il dit, attends, moi je vais rester debout, et lui il va être assis, mais quand tout Israël va voir que moi je suis debout et lui il est assis, ils vont dire, attends, pourquoi qu'on l'a nommé notre roi celui-là? Puisque lui a le droit d'être assis, donc il est plus important. Et donc ils vont me destituer. Et comme il n'a pas voulu perdre le pouvoir, il a mis des soldats sur toute la frontière entre les 10 tribus et les 2 tribus. Et il a ordonné à ses soldats, comme Hitler, toute famille que vous prenez, hommes, femmes, enfants, nourrissons, que vous les prenez à vouloir passer travers la frontière, vous les massacrez. Il a fait massacrer des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Une grosse crapule. Le pouvoir lui est monté à la tête. Un jour, Hachem a voulu le récupérer, disent nos maîtres. Hachem, bon, je ne sais pas s'il faut le prendre à la lettre, mais peu importe, s'est dévoilé à lui dans un rêve. Il lui a dit, Jéroboam, si tu fais tes chouvas, toi, le Mashiach et moi, on se promène ensemble dans le Gan Eden. Tellement Hachem tenait à lui, parce qu'au départ, c'était un grand sadique. Jéroboam a répondu, c'est dans nos commentaires, bien sûr, mais qui sera le plus proche de toi, le Mashiach ou moi? En tête à claque. Hachem lui dit, bah écoute, le Mashiach quand même. Il dit, non, ça ne m'intéresse pas. Il lui dit, ça ne m'intéresse pas. Et puis, il a continué à sombrer dans le mal absolu. Un assassin, un idolâtre, c'est lui qui a fait rentrer à nouveau les veaux d'or dans les 10 tribus, etc. Au point que nos maîtres nous disent sur les 10 tribus. J'ai presque fini, mes amis. Vous savez qu'à cette époque-là, combien il y avait de millions de juifs, à votre avis? À cette époque-là, on approchait les 100 millions. Ben oui, effectivement. On se mariait à 13 ans. On pouvait avoir plusieurs femmes. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, chaque homme avait une trentaine de gosses. Oui, bien sûr. À l'époque du deuxième temple, où seulement la polygamie était encore permise, où seulement il restait pratiquement que 2 tribus, le deuxième temple. Nos maîtres disent dans le Talmud qu'il y avait déjà, il y avait 50 millions de juifs. Alors imaginez-vous quand il y avait les 12 tribus et le grand Israël. Ben oui, on se mariait à 12-13 ans, on avait avec le temps 5-6 femmes, allez en moyenne 7-8 gosses par femme. Et donc faites le compte, c'était des familles immenses. Nos maîtres nous disent que dans les 10 tribus d'Israël, seuls 7000 juifs ne sont pas tombés dans l'idolâtrie. 7000. Sur des millions. Sur des millions. D'accord? Ça veut dire que finalement, tout le monde a sombré dans le culte du roi, le culte de l'homme, le culte. Et hop, on est nouveau tombé. Et c'est ce qui a causé, bien sûr, la destruction du premier temple. Et jusqu'à aujourd'hui.
Et Jéroboam était de la tribu
d'Éphraïm. Et. Oh là là, j'ai oublié. Et Jéroboam, vous m'avez sauvé. J'ai commencé par Jéroboam pour. Et j'allais oublier l'essentiel. Et Jéroboam était un descendant direct de Yosef Hatzadik. Descendant direct. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Quand tu commences le culte du rabbi, tu finiras par le culte du roi, c'est-à-dire le politicien. C'est une question de temps. Mais on y arrive. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Bon, bah attends, mais d'accord, mais c'est un rabbi. D'accord. Mais le problème, c'est que du rabbi, tu vas passer au milliardaire. Du milliardaire, tu vas passer au politicien. Du politicien, tu vas passer au fasciste. Et finalement, tout le monde se prosterne devant Amman. Tout le monde se prosterne devant Amman. Voilà. C'est pour ça que Jéroboam, nos maîtres nous disent, d'abord, il était de la tribu d'Éphraïm, d'abord. Mais pas seulement il était de la tribu d'Éphraïm, ça c'est marqué clairement dans la Torah. Mais c'était un descendant direct de Yosef. De là, mes amis, on doit comprendre, et j'ai terminé, une chose très importante. La délivrance finale dépend de notre capacité à comprendre une fois pour toutes qu'il n'y a qu'un seul et unique dirigeant que nous devons effectivement vénérer sans fin et sans limite, c'est le maître du monde. Attention, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas respecter un rabbi, un tzaddik ou même un bon politicien. Bon, ça c'était nos ancêtres les Gaulois, parce que des bons politiciens, il n'y en a pas. Mais disons, supposons qu'il y en ait un bon, d'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le respecter, d'accord? Mais le respect n'a rien à voir avec le culte. Et la différence entre le respect et le culte repose sur l'épaisseur d'un cheveu. C'est très difficile d'avoir la différence. Et vous savez qui dit ça? C'est encore une fois une métaphore, ne le prenez pas à la lettre. Nos maîtres disent dans le Talmud que la distance entre l'enfer et le paradis, dit en français, Gan Eden et Gehinnom, la différence entre les deux, l'épaisseur d'un cheveu. C'est pas à prendre la lettre, mais qu'est-ce que nos maîtres veulent nous dire? Ça veut dire que ça se joue à l'épaisseur d'un cheveu. Est-ce que tu vas être en enfer ou tu vas être dans le Gan Eden? Et c'est exactement ça. Respecter un maître, respecter un politicien qui vraiment voue sa vie pour son peuple, respecter un homme riche qui donne énormément, énormément de tzedaka, évidemment que tu dois avoir un respect énorme, énorme. Mais attention, ne tombe pas dans le culte de l'homme. Et la différence entre le respect et le culte, c'est l'épaisseur d'un cheveu. C'est ce qui va faire toute la différence si tu vas aller en enfer ou si tu vas aller au paradis. Et ce n'est pas un travail facile, car je peux vous garantir que jusqu'à aujourd'hui, y compris dans notre peuple, 99% de l'humanité sont tombés dans le culte et non dans le respect.
Et pour le Ram, il y a Pil, c'est les Abil et Ren.
Waouh, vous êtes très fort, vous. Regardez ce qu'il vient de dire. Poulchan en araméen, qui veut dire le culte de. Les premières lettres, P, Lamed, qui veut dire tu tombes. Chen, tu tombes dans. On pourrait dire dans le chen, ça veut dire tu tombes dans l'éblouissement du juste. Tu tombes dans un oubli. Poulchan, tu tombes. C'est incroyable ce que vous dites. Poulchen, Poulchan, on dit, mais c'est Poulchen. Ça veut dire que tu tombes finalement dans l'extase, voilà le mot que je cherchais, dans l'extase devant le grand. Non, tu dois le respecter, mais pas d'extase. C'est le seul devant lequel tu peux être extasié, d'accord? Non, pas extasié, extasié. Le seul devant lequel tu peux être extasié, c'est devant Hachem, mais jamais devant un homme. Maintenant, encore une fois, ce que je dis, est, je l'avoue, est très dangereux. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême de dire, bon, ce n'est qu'un homme. Non, non, chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise. Je dis, même devant un politicien laïque qui donne vraiment et sincèrement sa vie pour son peuple, on doit avoir un respect énorme, même s'il est laïque. Parce qu'il voue sa vie à son peuple. Le respect, on doit l'avoir, mais pas le culte. Et encore une fois, ce travail est un travail très très dur. Le premier qui réussira à la perfection et qui deviendra un modèle pour l'humanité tout entière, ça sera le Mashiach, qui arrivera justement à respecter les hommes, respecter les peuples, respecter les différences, mais sans rendre un culte. Et c'est une des raisons pour lesquelles nos maîtres nous disent qu'il viendra sur un âne. Pourquoi pas dans une Volvo ou dans une Mercedes? Pourquoi? Il aura les moyens. Mais pourquoi sur un âne? Pour bien nous faire comprendre qu'il se considérera comme quelqu'un de très simple, de très... Un âne me suffit. Et même si je suis le Mashiach, un âne me suffit. J'ai pas besoin d'une Rolls Royce. J'ai pas besoin de ça. Voilà, mes amis.